Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la généalogie de la démocratie économique, s'interroge Alain Supiot. Quelles sont les faiblesses de l'État social ? Comment l'idée de démocratie sociale a-t-elle acquis en France un sens juridique relativement précis ? Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, nous entraîne dans une grande réflexion depuis hier autour des figures juridiques de la démocratie économique dans le cadre de sa série de cours donnée au Collège de France en 2016. Le cours d'hier s'était achevé sur l'analyse de Christophe Lasche, qui a diagnostiqué dès 1995 une sécession des élites et une trahison de la démocratie. Et je rappelle cette citation éclairante et toujours d'actualité. Les mêmes tendances sont à l'œuvre dans le monde entier. En Europe, les référendums qui se sont tenus sur la question de l'unification ont révélé une faille profonde et qui va en s'élargissant entre le monde politique et les membres plus humbles de la société qui redoutent que la communauté européenne ne soit dominée par des bureaucrates et des techniciens dépourvus de tout sentiment d'identité ou d'appartenance nationale. Une Europe gouvernée de Bruxelles sera, de leur point de vue, de moins en moins sensible au contrôle des peuples. Le langage international de l'argent parlera plus fort que les dialectes locaux. Fin de citation. Dans cette série, Alain Supiot rappelle que la démocratie est une notion à géométrie variable qu'il faudra commencer par remettre en perspective juridique et historique pour comprendre les raisons et la portée de sa déclinaison en démocratie politique, démocratie sociale, démocratie industrielle ou démocratie économique. Il y a en effet de bonnes raisons, nous dit-il, de penser qu'il ne s'agit pas là de questions indépendantes les unes des autres, mais de différentes facettes d'une même tentative de fonder le droit sur la confrontation des expériences dans des sociétés complexes. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 4 novembre 2016 pour le cours d'Alain Supiot, aujourd'hui figure juridique de la démocratie économique, introduction.
Nous nous retrouvons donc là où nous étions quittés. Le sentiment de déconnexion des élites, de l'expérience de la vie des classes populaires, que ce sentiment soit fondé ou non, ouvre toujours la voie à récupération politique par des démagogues. Mais il ne suffit pas de dénoncer cette récupération, il faut s'interroger sur les causes de ce sentiment de déconnexion. J'emploie à dessein ici cette expression de déconnexion qui est issue de l'informatique, car la seule chose réellement nouvelle, me semble-t-il, dans la dispute contemporaine autour du populisme, se trouve du côté des causes du divorce des classes dirigeantes et des classes populaires. Elles sont bien sûr à rechercher du côté de la globalisation et de la possibilité, observée dès les années 80 par Robert Reich, le premier ministre du Travail de Bill Clinton, qui observait donc que les manipulateurs de symboles, ce qu'il appelle les manipulateurs de symboles, peuvent se désancrer d'un territoire particulier à la faveur de la globalisation et se désolidariser par conséquent du sort de leurs compatriotes. C'est-à-dire, autrement dit, la liberté de circulation des capitaux et des marchandises autorise une vie relativement nomade. D'ailleurs, il y a une valorisation du nomadisme. Et du coup, ces compatriotes sont perçus plus volontiers comme un peuple crétin que comme un peuple souverain. Mais elles sont aussi, ces causes nouvelles, à rechercher du côté des nouveaux outils cognitifs au travers desquels le peuple est perçu par les élites. Parce que c'est une vieille question. Comment est-ce que les classes dirigeantes se représentent d'expérience de la vie des classes dirigées. Jusqu'à une période très récente, le moyen privilégié qui s'ouvrait aux élites pour comprendre une société dans la diversité de ses expériences était la culture générale. Le général de Gaulle l'a dit dans des termes qui méritent d'être rappelés. La véritable école du commandement, écrivait-il, avant la Seconde Guerre mondiale, est celle de la culture générale. Par elle, la pensée est mise à même de s'exercer avec ordre, de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire, de s'élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. Pas un illustre capitaine qui n'eut le goût et le sentiment du patrimoine et de l'esprit humain. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Alors, rien dans ces propos de De Gaulle n'aurait pu surprendre, par exemple, les lettrés confucéens qui ont dirigé pendant des siècles l'Empire chinois. Ils étaient sélectionnés sur la culture et la connaissance des auteurs classiques, plus encore que sur leur connaissance technique, même s'il fallait être un bon hydrographe. Et ils étaient censés trouver dans la connaissance des classiques les clés d'intelligibilité de l'être humain dans l'immense variété des situations auxquelles il peut se trouver confronté. Autrement dit, les moyens de comprendre de l'intérieur l'expérience des peuples qu'ils avaient à gouverner et dont ils ne partageaient pas la condition sociale et économique ou les conditions dans leur diversité. Le fait nouveau relativement à cette tradition, c'est, alors je ne vais pas dire l'inculture des classes dirigeantes, mais je dirais c'est l'essor des sciences sociales et qui permet de croire qu'on peut saisir et gouverner la société comme un objet calculable, manipulable, placé devant des dirigeants devenus des ingénieurs sociaux. C'est tout le thème que nous avions évoqué dans les cours sur la gouvernance par les nombres. Autrement dit, le fait nouveau, c'est cette gouvernance par les nombres qui introduit un type inédit de coupure entre dirigés et dirigeants. Sous l'empire d'analyse économique, qui voit dans le forum politique une simple variété de marché électoral, vous trouvez ça dans l'œuvre notamment de Gary Becker, et sur un marché électoral, le problème est de conquérir des parts de marché. Et pour le conquérir, et c'est en ces termes de conquête de parts de marché qu'est désormais pensé le lien avec le démos, c'est-à-dire en termes de communication, c'est-à-dire d'application au marché électoral d'une version particulière de publicité. Mais cette combinaison de l'expertise socio-économique et de la réclame, enfin de ce qu'on appelait la réclame dans ma jeunesse, qu'on appelle la publicité maintenant, ne suffit pas à créer l'affectio societatis, c'est-à-dire l'horizon commun nécessaire pour souder une communauté politique en général et une démocratie en particulier. Du point de vue politique, cette disparition d'un horizon commun à toutes les catégories sociales fait ressurgir le critère schmittien que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, de Carl Schmitt, critère de l'ami et de l'ennemi, et de la lutte à mort entre eux et nous. Dans de très nombreux pays, dont les pays européens, ce n'est plus la promesse du progrès social qui sert de moteur à la conquête ou à la conservation du pouvoir, mais la désignation de l'ennemi, qui a toujours la figure de l'autre, que ce soit donc le musulman identifié à l'islamiste, l'immigré identifié à l'assisté, le fonctionnaire identifié au parasite, le catholique identifié à l'obscurantiste, le conservateur à un malade mental affecté de dangereuses phobies. L'ennemi, une fois ainsi substantialisé, n'a plus de place légitime dans l'espace public et se trouve exclu du cercle du débat démocratique. Il ne s'agit plus de respecter sa liberté d'expression et de lui opposer des arguments, mais de le disqualifier et de le réduire au silence. Du point de vue économique, l'asservissement de la technostructure aux intérêts exclusifs des actionnaires, thème que nous avons évoqué lors du dernier cours, sape les conditions d'un équilibre entre la coopération et la compétition dans la vie des entreprises comme dans celle de la cité. Or, cet équilibre est indispensable à l'humanisation du travail et à l'esprit d'entreprise, ainsi qu'au bon fonctionnement des marchés de produits et de services et à la protection de la planète. Donc, rétablir un tel équilibre supposerait de réencastrer les marchés dans la société. Or, comme le montre l'expérience du XXe siècle, un tel réencastrement de l'économie dans la société ne peut s'opérer que sur un mode dogmatique, c'est-à-dire qu'il exige, pour reprendre une formule de Pierre Legendre, je cite, « d'arrimer l'agir économique aux procédures de la référence fondatrice d'une société ». C'est un point sur lequel nous reviendrons peut-être si nous avons le temps. Ainsi que nous l'avons vu au cours de ces deux dernières années, le sursaut dogmatique intervenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale visait justement à réencastrer ainsi l'économie dans la société en unissant tous les peuples dans une entreprise commune de progrès social. La reconnaissance des droits sociaux engageait chaque nation dans la poursuite d'un objectif commun de justice sociale et d'amélioration des conditions de vie et supposait donc l'existence d'un devoir de solidarité entre les individus, mais aussi entre les nations. Et de quelque façon qu'on l'envisage, le principe de solidarité n'est pas neutre, car il est source d'obligations positives pour les individus. C'est-à-dire, il n'est pas source que de droit, il est toujours source, par définition, d'un devoir de solidarité. Mais cette perspective, dès l'échec de la charte de la Havane en 1948, cet assujettissement des échanges économiques a été abandonné dans les relations internationales. Puis-je supposer que vous avez la charte de la Havane à l'esprit ? Non. Bon. Alors, je vous rappelle que cette charte, négociée donc dans l'immédiate après-guerre, prévoyait la création d'une organisation internationale du commerce, pas l'OMC, ça s'appelait l'OIC. Et cette organisation internationale du commerce aurait eu pour mission la réalisation des objectifs de plein emploi et de relèvement du niveau de vie dans tous les pays de la planète. Ces objectifs étant ceux qui ont été fixés par la Charte des Nations Unies et par la Déclaration de Philadelphie. Les statuts de cette organisation lui enjoignaient notamment de lutter contre les excédents aussi bien que contre les déficits des balances de paiement, de favoriser la coopération économique et non la concurrence entre les États, de promouvoir le respect des normes internationales du travail, de contrôler les mouvements de capitaux, d'œuvrer à la stabilité des cours des produits de base, qui sont la base aussi des ressources des populations dans les pays dits du Sud. Voilà le programme, si je puis dire, de l'OIC. Cette charte n'a jamais été ratifiée, et ce sont des buts exactement inverses qui ont été assignés à l'Organisation mondiale du commerce lors de sa création en 1994. Donc au cœur de cette création, il y a l'idée au contraire de la mise en compétition des économies. Aussi, les cadres nationaux de l'État social sont aujourd'hui bousculés par l'effacement des frontières du commerce et la mise en concurrence internationale des législations sociales. Ce sont des points que nous avons évoqués l'année dernière, ainsi que par la révolution numérique qui permet de déterritorialiser toutes les tâches ayant pour objet des signes, c'est les manipulateurs de symboles, et non des choses. Dès lors, l'État social a reposé sur des bases juridiques exclusivement nationales. Et certes, le respect de la diversité des modèles sociaux est nécessaire, mais il suppose un cadre juridique qui protège et encourage le développement de ces modèles. À partir du moment où toute idée de coopération et de coordination économique internationale a été abandonnée, la dernière tentative date du début des années 70. Il y a une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies visant à établir une solidarité entre pays riches et pauvres et qui n'a jamais été mise en œuvre. Et de ce jour, si vous voulez, les pays du Sud se sont ralliés au credo de la lutte de tous contre tous, en disant ce que nous allons utiliser, c'est les ressources que nous avons. Et les ressources que nous avons, c'est d'abord une population abondante qui peut travailler pour des coûts très bas. Ce sont aussi des ressources naturelles également abondantes que nous allons surexploiter. Donc c'est engagé dans une course à la fois sur le plan des ressources humaines et des ressources écologiques qui était plutôt une course vers le bas, animée par la recherche par chaque pays de la maximisation de ses avantages comparatifs. C'est les thèses chères à l'économiste Ricardo au début du 19e. Et donc les systèmes de solidarité édifiés au plan national ont été minés par cette libre circulation des capitaux et des marchandises qui les engage tous dans cette course sans fin, au moins-disant sociale, fiscale, environnementale. Donc ça, c'était la première grande faiblesse de l'État social. Mais il y en a une autre à laquelle il faut être attentif, c'est qu'il avait évincé du champ de la justice sociale la question d'une juste organisation du travail. En terre capitaliste comme en terre communiste, un consensus s'était établi dans l'entre-deux-guerres pour considérer que le travail à ses différents échelons, celui de l'individu, mais aussi à l'échelon de l'entreprise, de la nation ou du commerce international, relevait d'une organisation scientifique et technique, celle du taylorisme. D'où une réduction du périmètre de la démocratie sociale à la question du prix et de la durée du travail, la déshumanisation de son contenu étant considérée comme inhérente au progrès technique. Et sans doute une critique de ce consensus apparaît-elle dans la déclaration de Philadelphie, qui prescrit, je cite, « l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté, de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun », fin de citation. Mais cette formule est d'autant plus remarquable qu'elle n'a été suivie d'aucun effet. Et donc aujourd'hui, la gouvernance par les nombres a pris la place du taylorisme comme expression supposée d'une organisation scientifique de la division du travail, et elle bénéficie du même consensus général sur l'échiquier politique que naguère le taylorisme. Et demeure ainsi ignorée la dimension proprement anthropologique du travail, entendue dans son sens large et concret, d'inscription dans leur milieu vital, des images mentales qui préside à l'action et la collaboration des hommes. J'insiste sur cette dimension écologique qui est largement méconnue. La manière de concevoir le travail à l'échelle du globe a un impact direct sur la surexploitation ou au contraire la préservation des ressources naturelles. Et l'ignorer a des effets tout à fait négatifs, aussi bien en termes d'institution de la raison que de créativité et de respect de notre écoumène. Donc ça, c'est pour vous dresser une sorte de panorama général des questions de la démocratie économique aujourd'hui, pour vous montrer que la restauration de cadres institutionnels vivables suppose donc non de revenir aux formes prises par l'État social après-guerre, mais de tenir compte des raisons de son épuisement et d'ancrer dans l'expérience des peuples une juste division du travail et de ses fruits à l'échelle de la planète. Revenir à l'agenda qui était celui de la Havane, mais en ayant en tête la dimension environnementale et les changements technologiques qui sont intervenus depuis. Ainsi pourra-t-on passer d'une logique de globalisation à une logique de mondialisation. Là aussi, juste de la possibilité de distinguer ces deux notions et retrouver d'une part le sens des limites, limites territoriales, mais aussi limites à l'hubris de l'accumulation et de la toute-puissance de l'homme sur la nature, et d'autre part, le sens de la solidarité dans et entre les différentes communautés humaines, mais aussi de la solidarité écologique entre l'espèce humaine et son milieu vital. Donc un premier pas dans cette direction serait la restauration du principe de démocratie, non seulement dans la sphère politique, où il est aujourd'hui mis à mal par divers facteurs sur lesquels nous reviendrons, mais aussi dans la sphère économique, en rendant à ceux qui travaillent une prise sur l'objet et le sens de leur travail. Nous aurons l'occasion de voir tout au long du cours que cette thématique a été très importante tout au long du XIXe siècle. Elle a disparu à partir de la Première Guerre mondiale, mais elle a été au cœur de tout un mouvement de réflexion tout au long du XIXe siècle. La démocratie est en effet le moyen par excellence d'ancrer le droit et les institutions dans l'expérience historique. Et il est vrai que ce mot est rabâché, c'est un mot si rebattu qu'à l'instar de certains autres, comme religion, solidarité, société, on est en droit de se demander s'ils peuvent encore servir l'intelligibilité des temps présents. La démocratie est une notion à géométrie variable qu'il faudra commencer par remettre en perspective juridique et historique, pour comprendre les raisons et la portée de sa déclinaison en démocratie politique, sociale, industrielle ou économique. Il y a en effet de bonnes raisons de penser qu'il ne s'agit pas là de questions indépendantes les unes des autres, mais de différentes facettes d'une même tentative de fonder le droit sur la confrontation des expériences dans des sociétés complexes. L'idée de démocratie sociale, acquis en France un sens juridique relativement précis. Elle désigne avant tout un choix stratégique du plan de sécurité sociale adopté en 1945. Le modèle, vous le savez, de ce plan, c'était le plan Beveridge, anglais, et le gouvernement de Londres était bien placé pour avoir assisté au débat, mais la particularité du plan français, c'était de dire « nous n'allons pas faire un système étatisé, mais nous allons essayer de faire un système démocratique ». Cette ambition se trouvait très clairement affirmée dans l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui fonde la sécurité sociale. L'organisation nouvelle doit évidemment éviter les risques d'étatisme bureaucratique. Elle doit être faite d'institutions vivantes, se renouvelant par une création continue, par l'effort désintéressé eux-mêmes, chargés par leurs représentants d'en assurer directement la gestion. Le premier principe qui doit donc dominer cette organisation est celui de la gestion des institutions de sécurité sociale par les bénéficiaires eux-mêmes. C'est ça la notion de démocratie sociale et c'est ce qui distinguait le plan français du plan britannique. On ne peut pas dire que ça avait parfaitement bien marché. Il y a des restes, il y a encore des parties de notre système de protection sociale qui fonctionnent sur cette base. Je pense en particulier à l'assurance chômage, plus ou moins, mais dans des conditions de plus en plus difficiles, et l'emprise de l'État sur le système n'a cessé de se renforcer. On rattache aussi en France à l'idée de démocratie sociale ce qu'au XIXe siècle, on avait commencé d'appeler la démocratie industrielle. L'expression de « démocratie industrielle » se trouve chez Proudhon, selon qui, je le cite, « à la féodalité industrielle doit succéder, selon la loi des antinomies historiques » au XIXe, on adorait les lois, il y avait des lois partout. Alors, selon la loi des antinomies historiques, une démocratie industrielle. Voyez le parallèle avec la Révolution française dans le champ politique. On est passé de la féodalité à la démocratie dans l'ordre de la sphère politique. Il doit en aller de même dans l'ordre de la production, dit Proudhon. Et il entendait par là ce qu'il appelait une commandite du travail par le travail. Commandite au sens des sociétés en commandite. C'est-à-dire une organisation économique fondée sur des associations ouvrières au sein desquelles le salariat céderait la place, je cite, à la participation, c'est-à-dire la mutualité des services. Donc, toute la vision de Proudhon, il est important de se souvenir de tout ce pan de la philosophie sociale française qui marque beaucoup de sa singularité. Je pense à l'importance du mouvement mutualiste, par exemple, en France. Les associations ouvrières, écrit Proudhon, sont les foyers de production, nouveaux principes, nouveaux modèles, qui doivent remplacer les sociétés anonymes actuelles où l'on ne sait qui est le plus indignement exploité, du travailleur ou de l'actionnaire. Le principe qui a prévalu à la place du salariat et de la maîtrise, et après un essai passager du communisme, et la participation, c'est-à-dire la mutualité des services, venant compléter la force de division et la force de la collectivité. Il y a mutualité, en effet, quand dans une industrie, tous les travailleurs, au lieu de travailler pour un entrepreneur qui les paye et garde leurs produits, sont censés travailler les uns pour les autres et concourent ainsi à un produit commun dont ils partagent le bénéfice. Nous verrons un peu plus tard, parce que nous allons parler pas mal des États-Unis, que les mêmes idées étaient agitées à la même époque dans le monde américain. Mais c'est dans un sens sensiblement différent que finalement la notion de démocratie industrielle s'est véritablement épanouie au Royaume-Uni grâce à l'œuvre de Beatrice et Sidney Webb. Est-ce que vous avez entendu parler des Webb ? Bon, alors, ils sont mythiques en Angleterre. Ce sont les fameux réformateurs sociaux. Ils ont participé à la création de la Fabian Society et aussi de la London School of Economics, hein, dont Sidney Webb est le fondateur. Et ils publièrent ensemble, sous le titre « Industrial Democracy », donc « La démocratie industrielle », un livre qui est séminal du point de vue de la constitution du droit du travail britannique. Les Webb, prêtait à cette démocratie industrielle deux dimensions différentes, mais complémentaires. La première est une dimension interne que nous nommerions la démocratie syndicale. Les syndicats, écrivent-ils, sont des démocraties, en ce sens que leurs statuts sont tous fondés sur le principe « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». et qu'ils sont ainsi parvenus, je cite, à résoudre le problème fondamental de la démocratie, la combinaison de l'efficacité administrative et du contrôle populaire. Ça, c'est la première dimension de ce qu'ils appellent démocratie industrielle, c'est la démocratie qui est à l'œuvre dans les organisations syndicales, où ils voient les ferments d'un renouvellement d'une démocratie véritable. Ce sont des vues qui étaient en réalité largement partagées, qu'on retrouve dans la charte d'Amiens, dans le cas français, en 1905, avec ce débat fameux entre les anarcho-syndicalistes et les socialistes révolutionnaires. La seconde dimension de la notion de démocratie industrielle pour les Webb est externe, et elle consiste à faire de la négociation collective la méthode de réglementation des relations avec les employeurs. Donc vous voyez, il y a ces deux aspects de la notion entre lesquels on peut jouer. C'est le mouvement salarial ouvrier s'organise démocratiquement dans des syndicats. Les formes de cette démocratie sont différentes de celles de la démocratie politique, parce que dans la démocratie politique, ça repose sur un homme, une voix, ce sont des formes quantitatives, alors que dans la démocratie syndicale, c'est plus des formes qualitatives, par des regroupements qui ont pu être soit par métier, soit par industrie ou branche d'activité. Donc c'est une commune expérience du travail qui fonde la représentativité des syndicats. Et puis, autre versant, c'est la démocratie dans la sphère publique générale, et elle s'exprime par la négociation entre employeurs et salariés. Donc c'est la négociation collective, et c'est la raison pour laquelle la négociation collective a été au cœur du modèle britannique de relations de travail. Vous voyez, tout l'effort des Britanniques a été de dire, d'abord de mettre surtout les juges à la porte, parce que les juges ne cessaient de trouver scabreux des accords collectifs, ils disaient que c'est contraire à toutes les règles de la common law. Donc on a demandé aux parlementaires, au Parlement britannique, non pas comme en France, d'intervenir directement pour dire ce que devaient être les règles du travail, mais d'interdire aux juges de s'en mêler de façon à ce qu'on puisse avoir une négociation collective sur un pied d'égalité entre représentants du travail et représentants du capital. Et c'est ainsi donc que les Webb envisageaient la notion de démocratie industrielle sur ce second versant. Alors, au regard de ces notions relativement fixées, vous voyez que tout ça est un peu quand même flottant, de démocratie sociale et de démocratie industrielle, la notion de démocratie économique désigne un domaine à explorer plus qu'un concept déjà formé, et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi comme clé d'entrée pour ce cours. On a l'habitude, en effet, faisant fond sur l'étymologie grecque du mot « économie », vous savez que c'est « oikos nomos », c'est donc la loi de la maisonnée par opposition au « nomos » qui organise la cité. On va revenir sur la Grèce, on ne peut pas échapper à la Grèce quand on parle de démocratie. Vous aurez un petit passage sur la Grèce. Donc, on fait fond sur cette étymologie pour restreindre le périmètre de la démocratie, quand on parle de démocratie aujourd'hui, à la sphère de la « polis ». Pas la police municipale, police, le mot grec aussi, c'est-à-dire la sphère politique. Donc le nomos de l'oikos relèverait quant à lui, par nature, d'un pouvoir qui a pu, selon les époques, être fondé sur le patriarcat, la propriété privée, la compétence technique, la manipulation de symboles, mais en tout cas, ce qui fonde dans cet ordre l'exercice du pouvoir serait tout sauf la démocratie. La démocratie, ce serait simplement les affaires publiques. Donc la démocratie a toujours, en réalité, transcendé cette distinction. Alors c'est une des choses dont je voudrais vous convaincre pendant le cours, c'est que cette opposition d'un champ de la démocratie qui serait limité à la sphère du politique, alors que la sphère de l'économie y échapperait, c'est une construction récente. C'est une manière récente de voir les choses, et qu'en réalité, si on reprend sur son histoire longue la constitution des démocraties modernes, on s'aperçoit que la question économique a toujours été absolument centrale. Et la démocratie a toujours transcendé les distinctions aujourd'hui reçues entre le politique, l'économique et le social. Et il est de ce point de vue remarquable que l'idée de démocratie économique ait été pour la première fois avancée en France dans le rapport Auroux. Alors, le rapport Auroux, vous devez vous rappeler que c'est ce rapport qui marque une ambition politique après l'élection de François Mitterrand au début des années 80, de réforme du droit du travail. On peut dire que ce rapport, c'est la dernière tentative d'une réforme d'ensemble du droit du travail qui soit motivée par un projet politique et non pas, comme toutes les réformes auxquelles on a assisté depuis, par le projet d'adapter le monde du travail à de supposées contraintes économiques. Le propos du rapport Auroux, quoi qu'on en pense, est différent. Et son idée force s'y trouvait présentée dans les termes suivants. Ça nous ramène à 1981. Les aspirations des Françaises et des Français traduisent le choix libre d'une nation de bâtir une société de dignité, de responsabilité, de progrès social et de développement économique dans le respect des libertés. Cette démocratie vivante trouve son champ d'exercice dans les institutions publiques désormais décentralisées. Donc ça, c'est la sphère politique de la police dont nous venons de parler. Mais dans sa pratique quotidienne, comment ne trouverait-elle pas aussi et surtout sa pleine mesure sur le lieu de travail? Et là, c'est la formule qui va rester comme la devise attachée au rapport Auroux. Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l'être aussi dans leur entreprise. Tous les principes essentiels de notre droit du travail qui peuvent fonder durablement le développement d'une démocratie économique, et donc là nous avons la notion de démocratie économique, seront réaffirmés, cependant que les droits et les devoirs de chacun seront mieux définis par les textes et leur exercice mieux garanti par la loi et l'État. Cette dernière phrase marque là vraiment la tradition française de l'État tuteur de ce qui va se passer dans les entreprises. Et l'idée de démocratie économique fut alors avancée pour marquer l'extension à l'organisation du travail des principes régissant l'organisation politique de la cité. C'était ça le mouvement. On disait, il y a la démocratie dans la cité, elle n'existe pas dans les entreprises, il faut l'étendre. 35 ans après, il semble bien que cette perspective se soit inversée et qu'au travers notamment de la gouvernance par les nombres, de l'analyse économique du droit, l'organisation politique de la cité ait été progressivement assujettie à une hétéronomie économique. Donc c'est plutôt le mouvement inverse qui tend à s'affirmer aujourd'hui, c'est-à-dire de penser l'action des institutions publiques sur le modèle de l'entreprise, alors qu'on faisait l'inverse au début des années 80. Donc avant d'examiner ce double mouvement et de nous interroger sur les perspectives d'avenir, nous commencerons donc dans un premier chapitre à retracer les antécédents historiques et juridiques de la démocratie économique.
Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, aujourd'hui figure juridique de la démocratie économique, introduction.
Bon, alors, chapitre 1, donc. La démocratie, c'est l'une des réponses inventées par l'humanité à la question de l'imposition dans une société donnée de règles de vie devant être respectées par tous ses membres. Cette question est vitale pour l'espèce humaine et ne se pose qu'à elle. Il faut, pour le comprendre, revenir à l'anthropologie physique, à ce processus qu'a si bien décrit le roi Gouran, qui a précipité les grands singes que nous sommes dans un monde de signes, d'objets qui donnent corps à leurs images mentales. Et comme tout animal vivant, l'homme est d'abord au monde par ses sens, par sa vie organique et digestive, mais à la différence de tous les autres animaux, il accède par le langage et par la technique à un univers symbolique qui transcende l'ici et maintenant de son expérience sensible. C'est encore plus vrai avec les iPhones. À la finitude de sa vie organique et viscérale se superpose le monde sans limite de ses représentations mentales. Le problème, j'emprunte à Prévert pour le désigner, ce problème, qui écrit « Le monde mental ment monumentalement ». Donc, c'est ça le problème, c'est que nous vivons sur deux registres, mais l'un de ces registres, qui est celui qui nous est propre, est capable de mentir, de nous déconnecté du réel. Donc, l'homme est un animal bidimensionnel qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel et qui est toujours menacé de perdre pied avec la réalité et d'être emporté par le vertige de ses représentations mentales. Accédant à l'univers enivrant des symboles, les hommes s'y trouvent exposés à un risque ignoré des animaux, celui du délire, et d'abord du délire de toute puissance. C'est pourquoi ils doivent être institués, c'est-à-dire assujettis à une représentation du monde qui s'impose à tous. Une société qui ne serait pas l'institutrice de ses enfants doit s'attendre à voir surgir des enfants meurtriers. Et instituer la raison, c'est amener tout être humain à accorder la finitude de son existence physique avec l'infinitude de son univers mental. Autrement dit, à nous apprendre à distinguer dans le monde de nos images mentales, qui tout à la fois nous relie et nous sépare du monde physique, ce qui relève de la réalité, du possible et du fantasme, du pur imaginaire. Cet apprentissage que chacun de nous a dû faire enfant et qui jamais ne s'achève vraiment est indispensable pour sortir du solipsisme de sa vie subjective et partager avec nos semblables une même représentation du monde qui nous permette de communiquer avec eux, qui nous permette même de les comprendre dans le meilleur des cas. La condition première de cette communication est de se soumettre à la loi de la langue, c'est-à-dire de se référer à des symboles qui nous sont extérieurs et s'imposent à tous. Alors seulement, nous pouvons participer à ce que on peut appeler des assemblées de paroles. Et la démocratie peut être, ce n'est pas moi qui l'avance, vous allez voir, c'est une notion que j'emprunte à l'anthropologue Marcel Détienne, définie comme une forme d'assemblée de paroles. Une petite incursion dans la linguistique est donc ici nécessaire pour comprendre ce qui différencie les échanges langagiers et les signaux échangés par les animaux. Alors, excusez-moi, ça va être bref, mais si on admet qu'une démocratie, on le verra, historiquement ça a toujours été ça, on s'assoit en rond, on cause, plutôt que de se cogner, et puis on essaie de se tomber d'accord sur une représentation de comment sont les choses et comment devraient-elles être. C'est toujours ça, en fin de compte. Donc il s'agit d'échanger des paroles. Souvent, on a tendance à dire aujourd'hui, mais oui, mais les bonobos sont de bons garçons et qui sont souvent invoqués pour dire, au fond, nous sommes dans le même problème que les singes, eux aussi, ils parlent. Bon. Non, les animaux ne parlent pas. Et pour le comprendre, on peut emprunter une typologie avancée par Charles Peirce, qui est un philosophe américain, 1839-1914, qui distingue trois types de représentations du monde auxquelles correspondent trois types de références. Référence est une notion très importante dès qu'on s'intéresse au droit, parce qu'on va avoir affaire à des problèmes de référence. Le premier type de représentation est iconique. L'icône, c'est l'image physique de l'objet représenté, que cet objet existe réellement ou non. Là, vous avez reconnu immédiatement ce qu'il était interdit de faire sur l'icône. Si j'avais mis une licorne ou un phénix ou un animal, ça aurait été interdit aux licornes, je représentais un être imaginaire. Là, c'est un objet technique réel. Donc les images sont des icônes, mais aussi, très important à penser à l'ère de la gouvernance par les nombres, les diagrammes ou les métaphores dans l'utilisation de la langue. Deuxième type de représentation, elle est de type indiciaire. L'indice est la marque physique ou temporelle de la présence de l'objet. L'indice ne ressemble pas à cet objet. Vous savez, j'ai choisi le triangle que chacun de vous doit avoir dans sa voiture. Ça ne ressemble pas à l'objet que ça signale. On ne sait pas quand on voit le triangle, qu'on arrive, si on va se trouver devant une maison en feu, des gendarmes, une voiture en panne. Mais ça signale la présence. Tout ce qui marque l'attention, écrit Peirce, est un indice dans la mesure où il marque la jonction entre deux états de l'expérience. Un coup frappé à la porte ou un coup de tonnerre, les vêtements détrempés du visiteur, la démarche chaloupée du marin, les mains calleuses du travailleur ou la montre clinquante du président, les mouvements de la girouette, etc. Tout ça, ce sont des indices de quelque chose. Ces choses nous parlent. Bon. Elles signalent la présence d'un objet, ou d'un sentiment, ou d'un trait de caractère. Troisième type de signe de représentation du monde, c'est le symbole. Le symbole se réfère à l'objet par la médiation d'un système de signes, indépendamment de toute ressemblance ou lien physique ou temporel à l'objet. Peirce le définit, alors l'expression ne peut que toucher votre cœur de juriste, comme un légisigne. Un symbole est une loi, écrit-il. C'est un signe qui fait loi pour toutes ses utilisations singulières. Tout mot ordinaire est ainsi un symbole applicable à tout ce qui peut réaliser l'idée attachée à ce mot. Donc, à la différence de l'indice, il n'est lié physiquement à aucun objet, car il est lié aux objets par la médiation du système de signes dont il participe. À la fin de sa vie, Peirce dira que l'homme est un signe, autrement dit, un animal symbolique, ce qui le différencie des animaux. Et les signaux que s'adressent les animaux sont certes nombreux, et ils répondent à des situations variées. Mais ils relèvent d'une logique indiciaire. À un certain cri ou à un certain type de sifflement correspond un objet. Alors ça a été très bien étudié en éthologie, avec des études des fréquences, et selon le son que va entendre, vous avez dû voir ça dans les montagnes, on voit il y a un castor qui fait la garde, etc., hop, il va envoyer le signal, et on sait qu'arrive quelque chose, tel ou tel type d'événement. Un rat ou un singe peuvent ainsi apprendre à établir une corrélation entre le son « food » ou « McDo », si vous préférez, et la nourriture. Il existe alors un lien direct entre le signe et l'objet. Chaque signe est l'indice de la présence d'un objet ou d'une situation déterminée, d'un certain danger, par exemple. C'est donc un stimulus qui fonctionne indépendamment des autres, tant qu'il se trouve vérifié par l'ici et maintenant de l'expérience sensible. En effet, le stimulus disparaît si, de façon répétée, le rat ne voit plus de nourriture se présenter quand il entend le mot « McDo », de même qu'on ne prête plus attention à une alarme incendie qui se déclencherait inopinément plusieurs fois par semaine, ce qui a failli se passer dans cet amphithéâtre il y a quelque temps. Donc, vous voyez la particularité de ce système indiciaire. En revanche, la signification d'un mot de la langue se conserve indépendamment de son actualisation. Et je serais même tenté de dire, elle se conserve d'autant plus que cette actualisation fait défaut. L'évocation d'un bain de mer ou d'une promenade en montagne n'a que plus de force pour le détenu qui croupit dans sa cellule ou le malade intubé depuis des semaines dans une chambre d'hôpital. D'où cette capacité du langage, soulignée par le roi Gouran, de nous transporter loin de l'ici et maintenant de notre expérience physique sensible. Et cette capacité est due au fait que les mots de la langue, à la différence des cris des animaux, ne fonctionnent pas comme des indices, indépendamment les uns des autres, mais par référence les uns aux autres, car ils sont solidaires d'une même structure linguistique et leur sens varie donc en fonction de leur association des uns aux autres, ainsi qu'on peut s'en convaincre en consultant un dictionnaire. Par exemple, le mot anglais « fast » peut désigner aussi bien le jeûne que la fixité ou la vitesse. C'est donc au travers de cette structure symbolique que le langage nous permet d'évoquer aussi bien le réel que l'imaginaire. La notion de référence désigne donc en linguistique autre chose qu'une simple indexation des choses, qu'une collection de signes indicateurs. Elle est aussi, et elle est d'abord, référence à une structure symbolique. Et cette référence est nécessairement partagée par les locuteurs. Vous inquiétez pas, je suis en train de vous parler de droit et d'institution. Ainsi que l'exprime le grand linguiste Émile Benveniste, dans l'énonciation, c'est la dernière chose difficile, dernier effort, je vous demande en linguistique, on va quitter le terrain. Mais je crois que c'est indispensable avant de parler d'assemblée de parole. Dans l'énonciation, la langue se trouve employée à l'expression d'un certain rapport au monde. La condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de la langue est, chez le locuteur, le besoin de référer par le discours et chez l'autre la possibilité de co-référer identiquement dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur. Et la référence est partie intégrante de l'énonciation. Donc, vous voyez la différence. Là où l'indice réfère à un objet naturel, la langue réfère à un système de signes. La référence au sens linguistique ici employé par Benveniste ne désigne pas la référence directe d'un mot à une chose, mais la commune référence à un système symbolique susceptible d'exprimer toute espèce d'expérience réelle ou imaginée. Le problème, si je puis dire, c'est que cette référence, avec un grand R cette fois, à la différence de la référence du système indiciaire, elle ne tombe pas sous les sens physiques. La source du sens ne tombe pas sous les sens. Ou pour le dire autrement, ce qui garantit le sens échappe au sens. La communication linguistique n'est donc jamais binaire, mais toujours ternaire. Elle suppose pour advenir des locuteurs qui se réfèrent à un même univers symbolique. Et cette ternarité engage les hommes dans ce qu'on peut nommer au sens premier du terme une logique de l'interdit. La référence, en effet, est un tiers obligé qui tout à la fois s'interpose et relie les locuteurs, c'est-à-dire au sens propre, elle est source d'interdiction au sens étymologique interdictio. Cette nécessité d'une référence commune qui tout à la fois s'impose à tout locuteur et le rend libre de communiquer explique l'étrange ambivalence. Alors, j'ai cherché un sujet pour vous, un exemple, pour vous faire comprendre cette logique de la diversité des univers symboliques et comment ça va imprimer un concept. Et j'ai pris le concept de sujet, qui est central, sujet de droit. Qu'est-ce qu'un sujet ? Qu'il s'agisse du sujet parlant, du sujet de droit, le sujet désigne d'un même mouvement l'assujetti, celui qui est jeté dessous, la référence linguistique ou juridique, le subjectum, et celui qui s'affirme comme moi parlant ou agissant. D'un côté donc le sujet très obéissant de Sa Majesté, et de l'autre le moi-je affirmant sa souveraineté. Mais ces deux côtés sont les deux faces d'une même médaille, car il n'y a pas d'affirmation de l'autonomie du sujet sans reconnaissance de son hétéronomie constitutive. Car faute de cette hétéronomie, le moi-je est livré à ce que Simone Weil a appelé l'imagination folle, à ce que Castoriadis a appelé le magma des représentations, ou Pierre Legendre, le creuset délirant de la raison. Toutes expressions qui désignent chacune à sa façon le piège mortel de l'autoréférence, de l'incapacité de co-référer avec celui avec qui on parle. Notons au passage, c'est capital du point de vue du droit comparé, que si nous avons du mal à reconnaître cette hétéronomie constitutive du sujet, c'est aussi pour des raisons linguistiques qui, depuis l'essor des sciences modernes, nous poussent à identifier le sujet à un souverain régnant sur un monde d'objets. Tel n'est pas le cas de toutes les langues et de toutes les civilisations. Augustin Berck a ainsi comparé dans un livre récent l'énoncé banal par lequel on se présente à autrui au Japon ou en France. Là où le français dira par exemple « Je m'appelle René Descartes », le japonais dira « Nishida Kitato to Moshimasu », soit plus ou moins littéralement « Descartes René suis nommé ». C'est pas Berck qui est responsable de l'illustration, excusez-moi. Mais en revanche, voilà ce qu'il écrit à ce sujet, Berck. Ce que le premier pose d'emblée, le premier c'est le français, c'est l'identité du locuteur en tant que « je ». Puis il réfléchit cette identité sur elle-même. « Je appelle me », qui est « je ». Et il termine en donnant sa raison sociale de cette identité, un nom qui est dans l'ordre premièrement prénom de la personne individuelle et deuxièmement nom de la famille à laquelle appartient cette personne. Le second, à l'inverse, commence par cette raison sociale, en premier le nom de famille, en second le prénom, et après la particule de liaison « to » qui termine par le verbe qui exprime l'action du locuteur, « mosu », forme polie de « dire », dans la forme plus polie encore de « moshimasu ». Celui qui dit « je m'appelle » ou celui qui dit « je pense donc je suis » se pose face au monde de façon autoréférentielle tandis que le locuteur japonais, dont la subjectivité n'est pas moindre, se présente, commente Auguste Berck, comme un ambiant plutôt que comme un sujet s'opposant à l'objet. Un ambiant, c'est-à-dire un être qui se définit par et non en opposition à son milieu vital. Et ces différences méritent d'être gardées en mémoire, car elles ne sont évidemment pas sans incidence sur les diverses façons de lier les subjectivités dans une même société. Le francophone ou l'anglophone sera évidemment plus enclin à faire reposer l'ordre social sur les droits individuels que le japonais ou le russe. Je termine toute cette excursion linguistique par le russe. Ce dernier dira « Меня зовут », « Moi appelé », « Moi appelé », suivi du prénom et du nom du père. Vladimirovitch, c'est-à-dire l'inscription dans une lignée. Mais au-delà de ces différences, qu'ils soient français, japonais, américains ou gabonais, tout sujet humain mène donc une double vie animale et symbolique. Et sauf mort cérébrale, ces deux vies ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Notre vie symbolique est ancrée dans notre vie animale, qui à son tour est transformée par notre maîtrise des symboles. Et cette maîtrise désigne la capacité des membres d'une société donnée de co-référer, pour reprendre le mot de Benveni, c'est-à-dire d'attribuer à des signes visibles un même sens invisible. Ceci vaut pour toute espèce de symbole, qu'il s'agisse des symboles langagiers ou mathématiques, d'un drapeau ou d'un panneau de signalisation routière. Le plus modeste panneau d'interdiction de stationner peut vous faire comprendre ce lien apparemment mystérieux entre visible et invisible, qui définit ce qu'on appelle le symbolique. Alors, le symbole, au sens premier du terme, qui est le sens grec, est un signe de reconnaissance, c'est un signe d'une origine juridique, les moitiés concordantes d'un anneau qui matérialise un lien juridique entre deux personnes. Ce sens premier nous rappelle la notion de légitime de Peirce, qu'il y a une légalité du symbole. Donc la fonction consiste à relier une essence, c'est-à-dire un lien d'obligation, et une apparence, le signe qui rend ce lien visible. Le signe ici rend visible l'obligation de fidélité, par exemple, de secours, d'assistance, etc., qu'il y a entre les époux. Le contraire du symbolique, c'est le diabolique. Diabalein. Qui en grec moderne veut dire diabalein, calomnier, mentir pour semer la discorde. Et la diabalein rompt le lien entre essence et appartenance et rompt aussi le lien social. Alors là, j'use une fois de plus de la licence que m'a donnée mon ami Selçuk Demirel d'utiliser ces images. Si vous regardez cette image, vous allez voir que le diable se cache quelque part. Le silence se fait quand on évoque le nom du diable. Eh bien, il est en bas à gauche, il est le seul dont le reflet n'est pas juste. Il a un reflet de poisson. Donc c'est le diabalein. Il ne reflète pas, et il ment. C'est pour cela que le diable s'appelle le diable. Il sème le mensonge et la discorde en trompant sur la signification des symboles. Aujourd'hui, l'incompréhension de la dimension symbolique de la vie humaine prend deux formes, apparemment opposées, mais en réalité complémentaires. D'une part, celle du biologisme, de ce que l'administrateur de cette maison, le professeur Alain Prochian, éminent biologiste, a nommé « l'étrange fureur d'être singe » dans son livre « Qu'est-ce que le vivant ?». Ça, c'est une des formes diabalaines. Et d'autre part, l'autre forme, c'est celle du postmodernisme, qui, au nom de l'arbitraire du signe, prétend à l'inverse désancrer le symbolique du biologique. Dans le premier cas, on réduit l'homme à sa dimension animale et le langage à un système de communication binaire de type éthologique ou informatique. Dans le second, on prétend au contraire pouvoir ignorer le milieu vital qui nourrit sa vie symbolique. Les premiers le voient comme une bête, les seconds comme un ange. Dans les deux cas, le délire guette, comme l'a observé depuis longtemps Pascal. L'homme est ce que Vercors a nommé avec beaucoup de finesse à la fin de la dernière guerre mondiale un animal dénaturé, c'est ce qui le rend si touchant et si dangereux. Et si vous aviez bien voulu me suivre jusqu'à ce point, vous comprendrez pourquoi les sociétés humaines ne sont pas réductibles à des troupeaux, les communautés politiques ne sont pas réductibles à un vivre ensemble. Comme le montre l'expérience des enfants sauvages, les hommes ne peuvent accéder à la raison sans la société, et ils ne peuvent faire société sans se soumettre à une référence commune, c'est-à-dire sans obéir à une logique de l'interdit qui leur permet d'échanger des paroles plutôt que des coups. Reprendre la question de la démocratie à ce niveau élémentaire permet de comprendre ce qui la rapproche et ce qui la distingue des autres formes d'organisation politique. Ce qui la rapproche, c'est la nécessité d'une référence commune, et donc la logique de l'interdit. Ce qui la distingue, c'est la façon de poser ces interdits. Dans la longue histoire des pauvres humains, ces interdits ont le plus souvent été imposés au plus grand nombre par un petit nombre, dont le pouvoir reposait sur la religion, la tradition, ou plus rarement sur la force seule. Tel est le cas des régimes aristocratiques, monarchiques ou despotiques, dont la science politique s'est employée à faire la nomenclature depuis Aristote jusqu'à Montesquieu. Dans tous ces régimes règne l'hétéronomie, c'est-à-dire que les règles de vie sont imputées à des dieux ou à des hommes qui jouissent d'un statut supérieur aux autres. La démocratie, elle, est née d'une pratique plutôt rare, mais dont la Grèce ancienne n'a pas eu le monopole, qui consiste pour les hommes libres d'une société donnée à s'assembler pour décider ensemble et sur un pied d'égalité des affaires communes. D'où le droit pour chaque membre de cette assemblée de contribuer à l'édiction de la norme en contredisant, le cas échéant, le point de vue de ses pairs. Ce point aussi est à garder en mémoire, car il y a dans la démocratie ce que Chantal Mouffe nomme une dimension agonistique, dimension de lutte, qui n'a au plan juridique nulle part été autant prise en compte, d'ailleurs, qu'en droit du travail, avec l'institution, par exemple, du droit de grève et des différentes formes d'action collective.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 4 novembre 2016 Alain Supiot, figure juridique de la démocratie économique, introduction. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours d'Alain Supiot. Le juriste a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Et je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Chez le même éditeur, il a publié son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en 2015. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laurelane Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot son analyse des figures juridiques de la démocratie économique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de France Culture.